Georges Léonard Sadio, bonsoir à tous et à tous.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mardi 5 avril 2022. Jean-Roger Bion à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, RDC François Abeya Kasongo, le conseiller pour la sécurité du président Tshisekedi, transféré à la prison de Makala. Ali Abd al-Rahman, un ex-chef de milice au Darfour, plaide non coupable de crimes de guerre devant la CPI. Le géant américain de la vente en ligne Amazon met des satellites en orbite en vue d'accroître l'accès mondial à l'Internet haut débit. Près de 200 diplomates russes expulsés d'Europe en 48 heures. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. En République démocratique du Congo, au moins 4 militants d'un parti politique ont été blessés par balle ce mardi dans la répression par la police d'une manifestation à Lubumbashi dans le sud-est du pays. Des heurts ont éclaté dans la commune de la Kenya lorsque les forces de l'ordre ont dispersé une manifestation des membres de l'Union nationale des fédéralistes congolais, UNAFEC. Plusieurs dizaines de militants en colère de ce parti, certains cagoulés, sont descendus dans les rues de Lubumbashi pour protester contre une décision du ministère de l'Intérieur confirmant la désignation controversée des nouveaux dirigeants de cette formation politique. La police affirme avoir interpellé 33 manifestants. Toujours en RDC, le monsieur sécurité du président Félix Tshisekedi a été transféré à la prison Makala de Kinshasa après 2 mois de détention dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement, a affirmé ce mardi un collectif de militants. Nanit Talani nous en dit plus.
Le transfert de François Abeya Kasongo à Makala, la grande prison de Kinshasa, a eu lieu hier soir, a annoncé sur Twitter le collectif Free François Abeya, ajoutant que l'affaire est devant la justice militaire. L'avocat et défenseur congolais des droits de l'homme, Jean-Claude Katende, assure qu'il faut continuer à se mobiliser pour que les droits de M. Abeya Kasongo soient respectés et qu'il ait droit à un procès juste et équitable. Conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, François Abeya Kasongo a été arrêté le 5 février par l'ANER, le service du renseignement de la RDC. Le 8 février, la présidence avait déclaré que les enquêteurs de l'ANER possédaient contre lui des indices sérieux attestant d'agissements contre la sécurité nationale. François Abeya, 67 ans, a été chef de la Direction générale de migration sous le régime de l'ex-président Joseph Kabila avant de devenir, en 2019, le monsieur sécurité du président Tshisekedi.
Au Mali, Human Rights Watch dénonce un massacre perpétré par des soldats maliens et présumés russes qui auraient exécuté 300 civils entre le 27 et le 31 mars dans la localité de Moura, entre Mopti et Djéné, dans une région qui est l'un des principaux foyers des violences sahéliennes. À propos de ces événements au Mali, l'Allemagne a pressé aujourd'hui Bamako de mener une enquête indépendante. Une religieuse américaine de 83 ans a été enlevée par des hommes armés non identifiés dans le nord du Burkina Faso dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé le diocèse de Kaya dans un communiqué. La sœur Suélène Tennyson de la congrégation des sœurs marianites de la Sainte-Croix était en service à Yalgo depuis octobre 2014. Médecins sans frontières a annoncé aujourd'hui la suspension de ses activités humanitaires dans une zone anglophone du Cameroun en proie à un conflit séparatiste en raison de la détention de 4 employés locaux accusés de complicité avec des rebelles. Les 4 employés arrêtés sont tous camerounais, parmi lesquels une infirmière de 33 ans et un chauffeur de 41 ans. Ils sont détenus depuis à Boya, chef-lieu du Sud-Ouest, dans le cadre d'une enquête pour complicité de sécessionnisme. À La Haye, aux Pays-Bas, un ex-chef de milice a plaidé non coupable ce mardi à l'ouverture de son procès devant la Cour pénale internationale pour des atrocités commises au Darfour il y a près de 20 ans. Claire Morin-Jibou.
Ancien chef de la milice John Jawid, force supplétive du gouvernement soudanais, Ali Abd al-Rahman, 72 ans, est la première personne à être jugée devant la CPI pour les atrocités commises au Darfour. Le procureur de la CPI, Karim Khan, l'accuse d'avoir été un participant conscient et volontaire aux crimes commis au Darfour.
Je plaide non coupable de tous les chefs d'accusation. Je suis innocent de toutes les charges, a répondu M. Ali Abd al-Rahman, collaborateur de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir. Également connu sous son nom de guerre d'Ali Kocheb, Ali Abd al-Rahman est accusé de 31 chefs de crimes de guerre et contre l'humanité commis en 2003-2004 au Darfour. Le conflit au Darfour a éclaté lorsque des membres de minorités ethniques ont pris les armes contre le régime soudanais dominé par des Arabes. Pour réprimer cette rébellion, Khartoum a envoyé les milices Janjaweed, issues des tribus arabes nomades. Selon les Nations Unies, ce conflit a fait près de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés.
Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez sera reçu jeudi à Rabat par le roi du Maroc, une visite marquant la fin de la crise entre les deux pays et rendue possible par le virage de Madrid sur le dossier sensible du Sahara occidental. Cette visite a été confirmée par le palais royal marocain qui devrait permettre notamment la reprise des connexions maritimes entre les deux pays. Elle va se prolonger vendredi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Plusieurs pays occidentaux annoncent l'expulsion de diplomates russes alors que les États-Unis indiquent qu'ils ne vont plus autoriser la Russie à rembourser sa dette avec des dollars logés dans des banques américaines. Le point avec Abdourahman Dia.
Un porte-parole du Trésor américain a déclaré que Moscou doit choisir entre vider ses réserves de dollars restantes ou utiliser de nouveaux revenus entrants ou faire défaut. Washington prend cette mesure alors qu'aujourd'hui est la date limite pour que la Russie effectue un autre paiement de la dette, a précisé le ministère. De leur côté, Paris, Berlin, Lisbonne, Rome et d'autres capitales européennes ont annoncé qu'elles allaient expulser plus de 150 diplomates russes, accentuant la pression sur Moscou. Par ailleurs, la Commission européenne a proposé ce mardi au 27 d'arrêter leurs achats de charbon russe qui représentent 45% des importations de l'Union européenne et en fermant les ports européens aux bateaux opérés par les Russes. Ceci après la découverte d'un grand nombre de corps dans la région de Kiev suite au retrait des troupes russes. Le secrétaire général de l'OTAN a même dit ce mardi qu'il redoutait la découverte d'autres atrocités lors de la reprise des territoires. Les Russes, à leur tour, accusent l'Ukraine d'une mise en scène. Jens Stoltenberg a par ailleurs indiqué que la Russie, tout en se retirant du nord de l'Ukraine, se renforce pour prendre le contrôle de l'ensemble du Donbass dans l'Est afin de réaliser un pont terrestre avec la Crimée, annexée par Moscou en 2014.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté aujourd'hui à l'ONU à agir immédiatement face aux crimes de guerre commis selon lui par la Russie dans son pays, sans quoi les Nations Unies n'auraient qu'à simplement fermer. Soit exclure la Russie en tant qu'agresseur et à l'origine de la guerre afin qu'elle ne bloque pas les décisions relatives à sa propre agression, puis faire tout ce que nous pouvons pour mettre en place la paix, a exhorté M. Zelensky en présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le chef de la diplomatie américaine, Antonio Blinken, a dénoncé, lui, aujourd'hui, une campagne délibérée pour tuer, torturer, violer à Boucha, ville ukrainienne, où ont été découverts des dizaines de cadavres après le retrait des troupes russes. Antony Blinken a réaffirmé la grande détermination de Washington à soutenir l'Ukraine dans son combat courageux pour repousser l'agression russe. Le géant américain de la vente en ligne Amazon, qui se diversifie dans les services informatiques, a annoncé des contrats avec 3 sociétés de lancement spatiaux pour 83 tirs de mise en orbite de milliers de satellites destinés à l'Internet haut débit. Les précisions de Nathalie Barge.
Amazon a signé ce matin des accords avec Arianespace, Blue Origin et United Launch Alliance pour le lancement de satellites dans le cadre de son projet Kuiper visant à accroître l'accès mondial au haut débit grâce à une constellation de satellites en orbite terrestre basse à environ 600 km d'altitude. L'opération s'étendra sur 5 ans pour déployer plus de 3000 satellites. Blue Origin, fondée commandée par le patron d'Amazon, Jeff Bezos, s'est vue attribuer 37 lancements. L'entreprise américaine Oula 38 et l'européenne Ariane effectuera 18 tirs qui vont presque tripler le carnet de commandes d'Ariane 6. Ces petits satellites permettent une faible latence et un haut débit Internet car ils sont beaucoup plus près de la planète que les satellites de télécommunications actuels qui orbitent à environ 36 000 km de la Terre. Ils peuvent compléter un tour de Terre en moins de 2 heures au lieu d'une journée pour les satellites géostationnaires éloignés. SpaceX d'Elon Musk a déjà envoyé en basse orbite plus de 2000 satellites Starlink visant à couvrir une trentaine de pays.
Le pape François va se rendre au Liban, pays frappé par une crise économique inédite en juin prochain, a annoncé aujourd'hui la présidence libanaise dans un communiqué. François a multiplié ces derniers mois les messages de soutien au pays du Cèdre, englué dans une crise économique et sociale sans précédent, et a manifesté son intention de s'y rendre à plusieurs reprises. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibou.
Les autorités camerounaises ont annoncé un programme d'investissement dans le secteur énergétique de 2 000 milliards de francs CFA. Le déficit d'électricité peut entraîner des pertes de plus de 23% pour les entreprises, selon le groupement interpatronal du Cameroun. Le gouvernement veut mettre l'accent sur le développement des énergies renouvelables, comme l'énergie solaire, photovoltaïque et la biomasse, qui vont s'ajouter à l'hydroélectricité qui représente plus de 90% du mix énergétique du pays. La Côte d'Ivoire est désormais un grand producteur mondial de caoutchouc. Premier producteur en Afrique et quatrième dans le monde, la Côte d'Ivoire a multiplié sa production de caoutchouc par 4 en 10 ans. En 2021, l'augmentation du volume d'exportation de l'EVA a été de 42,7%, générant 512 milliards de francs CFA de recettes. Après la filière cacao, l'EVA est devenu un moteur du développement du secteur agricole ivoirien. Amazon a annoncé mardi des contrats sans précédent avec 3 sociétés de lancements spatiaux, dont l'européenne Arianespace, pour 83 tirs de mise en orbite, totalisant des milliers de satellites destinés à l'Internet au débit.
Place maintenant au sport avec Nani Tchalani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous. La deuxième phase de vente des billets pour la Coupe du Monde de football au Qatar a débuté ce mardi et se terminera le 28 avril. Les personnes dont la demande de billets a été satisfaite seront informées de la suite donnée à leur demande par courriel au plus tôt le 31 mai, indique la FIFA dans un communiqué. 4 types de billets sont disponibles. Des billets pour un match en particulier, dont 4 catégories de prix, dont la dernière est réservée aux résidents du Qatar et qui court de 10 à 190 euros l'unité. Il y a aussi des billets réservés aux supporters d'une équipe pour l'ensemble de la phase de groupe ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer et des billets donnant accès à 4 matchs dans 4 stades différents. Pour les spectateurs venus de l'étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 62 et 200 euros pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 550 et 1460 euros. En moyenne, les billets sont 30% plus chers que lors du dernier mondial en Russie en 2018. Le président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe, qui était hier en visite de travail en Côte d'Ivoire, se dit satisfait et rassuré par les différentes infrastructures mises en place pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2023, même s'il reste encore quelques problèmes à régler. Le pays des éléphants construit et rénove en tout 6 stades. L'Office national des sports, qui supervise les infrastructures sportives, soutient que les travaux sont presque terminés à Ebimpe, Bouaké et Yamoussoukro. Le stade de San Pedro est fini à 70% et celui de Korogo à 64%. Le plus important reste le stade Félix Houphouët-Boigny, dont les travaux de rénovation ne sont qu'à 25%. Le docteur Patrice Motsepe a également inauguré hier lundi le bureau satellite de la CAF. C'est la deuxième fois que la CAF ouvre un bureau satellite dans le pays hôte pour assurer une meilleure coordination entre la CAF, le comité d'organisation locale et le gouvernement. Le premier était au Cameroun. L'équipe féminine du Botswana a commencé ses préparatifs pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Les juments ont éliminé le Zimbabwe lors du dernier tour des éliminatoires, se réservant ainsi une place dans la compétition prévue du 2 au 23 juillet au Maroc. Parmi les autres débutantes, il y a aussi le Togo, le Burkina Faso et le Burundi.
Page de sport signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Les musulmans du Niger ont débuté le ramadan dans un contexte de cherté ambiante de la vie. Les effets conjugués de la crise russo-ukrainienne et les mauvaises récoltes agricoles font que tout est cher pour les plus pauvres. Les actions d'atténuation des autorités tardent à se faire sentir. Le reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Tout est cher. Chacun se cherche. Cette année, que Dieu nous vienne en aide. Les prix ont grimpé. Aucun changement.
Sur les différents marchés de la capitale Niamey, difficile pour la ménagère de remplir son panier. Chaque année, en effet, à l'approche du mois béni de Ramadan, les prix flambent.
Là, c'est très cher. Avant, le tas, c'est 1000 francs. Mais maintenant, c'est le demi-tas, 1000 francs. Ça, là, c'est 1500. Le tas, c'est 2000. Il y a les gens qui vont vendre ça, 2000 et 1800. C'est cher, voilà.
Si on prend tous les produits, je pense qu'il y a une augmentation de prix. On peut même dire que on passe déjà au double.
Là, par exemple, j'ai en face de moi des pommes de terre que vous voyez là. C'est devenu très cher maintenant. Ça a pratiquement doublé de prix.
Au-delà des spéculations pour cause de Ramadan, le contexte international, marqué entre autres par la guerre entre l'Ukraine et la Russie et les mauvaises récoltes de la campagne agricole de cette année, peuvent également expliquer cette sûreté des produits de consommation.
Les prix des produits augmentent chaque jour. Nous ne savons pas la cause de cette augmentation. Les clients aussi n'ont pas d'argent maintenant. Normalement, en cette période, le mille ne doit pas dépasser 600 francs. Mais nous vendons la tasse à 750 francs. Le nébé est à 1250 francs. L'huile, 1100 francs, voire 1200 le litre.
Le sac de farine coûtait 17 000 francs, mais maintenant nous l'achetons à 25 000 francs. Les clients n'ont pas d'autre choix que de s'en procurer. Le sucre est à 26 000 francs. Le sac, cette année, le mil et le nébé se font rares parce que la saison de pluie n'a pas été bonne. Le sac de nébé coûtait 46 000 francs. Le mil est à 27 000 francs.
Pour faire face à cette sûreté de la vie, le gouvernement a récemment annoncé avoir consenti aux commerçants des réductions de taxes à l'importation de plusieurs produits de près de 7 milliards de francs CFA. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Sénégal, la location de terrains de football est devenue un business florissant à Dakar. Des clubs, des centres de sport et des investisseurs privés choisissent de mettre en valeur leurs terrains nus, transformés en terrains de football fermés avec gazon. Un business qui rapporte gros, mais qui permet aussi aux clubs d'avoir un nouveau souffle et des espaces de recrutement. De notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Des cités résidentielles à la banlieue de Dakar, en passant par les quartiers populaires, les pratiquants de football ont laissé les terrains sablonneux pour les enceintes en gazon synthétique installées un peu partout dans la capitale. Doudou Diagne, jeune étudiant passionné de sport, explique cette nouvelle tendance.
On ressent un énorme plaisir à jouer sur du gazon. C'est plus confortable que le sable. Les sensations ne sont pas les mêmes. On n'a que le sport et c'est très important pour nous d'avoir un environnement favorable à sa pratique.
Une forte demande et un business florissant pour beaucoup d'investisseurs privés qui multiplient la construction de terrains de football dans la capitale. Mohamed Ndiaye Dizidane, gérant d'un terrain en banlieue, témoigne de la rentabilité.
Du matin jusqu'au soir, les matchs ne s'arrêtent pas. Même durant le ramadan, les jeunes jouent de 20h à 2h du matin. La jeunesse aime vraiment ce type de terrain et ça nous rapporte beaucoup. Au minimum, on gagne 100 000 par jour durant les périodes de chaleur et environ 80 000 durant les périodes de froid.
À la base de ce business des infrastructures de football, la vision d'un homme, Mathieu Chupin, président du club sénégalais de Dakar Sacré-Cœur. Son ambition de départ était de mettre en place un business model viable.
Le business model de notre club de football professionnel, c'est ça. C'était de trouver une activité qui pouvait générer des moyens réguliers nous permettant de développer sereinement l'activité football professionnel. Donc DSC, c'est trois secteurs, le foot pro, le sport loisir et la partie sport solidaire puisqu'on est très engagé sur le social. Donc c'était ça le concept au départ. Et on a réussi à mettre ça en place à partir de 2010. Et c'est vrai qu'on a été les premiers et ça a été un succès assez important jusqu'à ce jour.
Un succès qui a inspiré les clubs traditionnels qui peinaient à assurer le fonctionnement de leurs entités. Ces derniers ont vite trouvé un moyen de renflouer leurs caisses. Medoun Diop, président des supporters et gestionnaire du terrain de NGB Niaritali, club de Ligue 1 sénégalaise.
Au début, c'était très difficile avec les clubs traditionnels parce que c'est une seule personne qui dirige le club, c'est lui qui fait son argent. Bon, s'il est fatigué, s'il est malade, bon, l'équipe a des problèmes. C'est pour cela qu'on s'est vu que ce politique-là n'est pas bon. Il faut qu'on sente une autre politique. C'est pour cela qu'on s'est battu pour avoir ce terrain-là, pour au moins avoir de ressources. Depuis qu'on a eu ce terrain, ça fait un an, c'est bon, depuis lors, le président du club, Mohamed Diouroua, ne fait plus son argent dans le club. C'est le terrain qui la gestion et tout ça, ça part dans le club, quoi.
Au-delà de la pratique sportive qu'il favorise, les terrains de football synthétique installés un peu partout dans la capitale représentent un investissement rentable pour les privés et une source de financement viable pour beaucoup de clubs de football professionnel. Seydina Abagé à Dakar pour VOA Afrique.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, le dialogue avec les groupes armés est-il la solution à la crise sécuritaire au Sahel et dans d'autres régions du continent minées par les conflits? Le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Damiba, a en tout cas annoncé la création de comités locaux de dialogue avec les groupes armés djihadistes. Parler avec ces groupes armés sont-ils inévitables? Quelles approches dans ces discussions? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur voafrique.com.
À la suite du retrait russe des villes autour de Kiev, la capitale ukrainienne, les habitants disent avoir le cœur brisé par la mort et la destruction laissée derrière eux. Le gouvernement ukrainien a déclaré que des preuves semblent montrer que la Russie a commis des crimes de guerre. Les détails dans ce reportage de Heather Murdoch, le récit est de Rosine Mounezero.
À Kiev, une parcelle a été mise de côté pour enterrer les civils et les soldats tués lors des récentes batailles, ainsi que les futures victimes de guerre. Au cours du week-end, alors que l'Ukraine annonçait avoir repris les villes entourant la capitale, des témoignages ont fait état de la mort de centaines de civils, avec de nombreux corps abandonnés dans les rues. Dimanche, un gigantesque incendie s'est déclaré dans la ville portuaire d'Odessa, dans le sud, après que des frappes aériennes russes ont touché une raffinerie et des dépôts de carburant autour de la ville. Dans un cimetière de Kiev, le directeur de l'établissement Kliminiok Volodymyr déclare que la guerre se concentre peut-être maintenant plus à l'est et au sud, mais il pense que la paix relative dans la capitale est temporaire. Depuis le début de la guerre, il affirme que 30 missiles ont touché ce cimetière.
Il est impossible de se sentir en sécurité ici. Par exemple, le 2 mars, pendant l'escalade à Boutcha, des missiles ont frappé notre cimetière à moins de 100 mètres des travailleurs. Les ouvriers se sont cachés à l'intérieur des tombes et après les tirs, ils ont continué à creuser les tombes.
Les habitants se disent choqués par autant de morts et de destructions. Kiev reste un enchevêtrement de barricades et de bâtiments bombardés. La Russie affirme s'être retirée de la capitale, mais Irina Sherbanyuk, une résidente, pense que les Russes vont continuer à s'en prendre à d'autres régions.
Je ne leur fais pas confiance. Je pense qu'ils se regroupent et cela pourrait être encore pire si la Russie déplace plus de troupes vers l'Est. Ce n'est pas facile pour les soldats ukrainiens de protéger ces régions.
Dans la partie occidentale du pays, les sirènes sont entendues quotidiennement même si les attaques y sont peu fréquentes. Les dirigeants locaux disent préparer les civils à la résistance. Seri Mornov est maire de Vinnytsia.
Nous proposons différents types de formations. Premier secours, exercice d'attaque chimique, instruction pour les raids aériens, technique de défense, y compris la défense du bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement, la municipalité de la ville.
Une école de Vinnytsia est utilisée pour loger des familles qui font partie des millions de déplacés, dont beaucoup se disent furieux.
S'il le faut, nous les combattrons à main nue et les déchirerons pour avoir tué nos enfants et tout ce qu'ils ont fait.
La guerre en Ukraine a forcé environ 10 millions de personnes à fuir leurs maisons et selon les Nations Unies, près de la moitié sont des enfants. Le gouvernement ukrainien déclare que les massacres à Boutcha et dans d'autres villes près de Kiev ressemblent à des crimes de guerre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Depuis quelques années maintenant, l'Internet ne passe plus uniquement par les câbles sous-marins. En effet, c'est désormais vers l'espace que se tournent les opérateurs pour connecter la planète. Même pour Kemal Afounian de l'organisation Internet sans frontières, cette conquête de l'espace soulève des inquiétudes telles que le risque de monopole des grandes fortunes sur les données échangées dans le monde. Il est joint à Cotonou par Zuma Compaoré.
C'est un monopole qui est effectivement inquiétant. Alors, pourquoi ce monopole est inquiétant? Il est inquiétant parce qu'on a deux grosses fortunes qui se tournent vers l'espace. Et concernant l'exploitation de l'espace, il y a un traité international des Nations Unies qui régit l'espace depuis 1967. Le souci, c'est qu'on est donc en face de groupes qui cherchent à acquérir une puissance de domination à travers donc le déploiement de ces activités, à travers une politique de connexion agressive dans des régions du monde qui sont très mal connectées, donc telles que l'Afrique. Depuis 2015, les USA ont été les premiers à faire évoluer, par exemple, leur législation, ce qui leur permet d'exploiter commercialement, par exemple, tout ce qu'ils peuvent trouver depuis l'espace. Le risque, c'est qu'on se retrouve donc face à des actions qui visent à porter des coups au porte-monnaie des internautes africains. Donc, jusque dans les années 2000, par exemple, c'était les États occidentaux et leurs opérateurs de télécommunications qui construisaient donc des infrastructures telles que les câbles sous-marins. Mais à présent, ces acteurs ne sont plus les seuls parce que vous avez aujourd'hui de grands groupes télécoms qui maintenant se lance dans la fourniture de services Internet. C'est le cas de Google, par exemple. On a vu déployer des ballons donc à travers son projet Loon qui ciblait, entre autres, l'Afrique pour fournir des services d'Internet. Ce projet est tombé à l'eau, malheureusement, donc il a connu un échec. Mais le souci, c'est qu'à travers donc de tels projets, comme celui qu'Amazon vient de déployer, donc le souci, c'est qu'il y ait donc une véritable bataille autour donc des données qui circulent à travers le monde numérique, donc car il règne aujourd'hui une grande opacité donc par rapport à ces données qui sont issues justement de l'usage des internautes.
Alors, et l'Afrique dans tout ça? Que faites-vous à Internet sans frontières pour équilibrer les jeux?
Du côté d'Internet sans frontières, il faut dire que c'est une situation que nous suivons avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup d'attention. Beaucoup d'intérêt et d'attention, pourquoi? Parce que c'est un développement en fait qui a des implications politiques, éthiques, juridiques et socio-économiques. Donc c'est la société qui risque d'être affectée à divers niveaux et c'est les libertés qui risquent d'être également impactées. Donc vous comprenez avec moi qu'à l'heure où l'intelligence artificielle fait ses premiers pas en Afrique, que de réelles menaces existent et donc nous faisons tout pour protéger donc l'écosystème africain dans de telles conditions face à l'essor de tels projets sur le continent africain.
C'était Kemal Afoyan de l'organisation Internet sans frontières.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.